la science CQFD, Natacha Triou.
La biodiversité et son déclin sont souvent les grandes oubliées de l'actuelle crise environnementale. Alors les insectes, mais d'ailleurs, et si les insectes disparaissaient ? Soit ils nous révulsent, soit on s'en fiche, et c'est assez rare de s'identifier à un moustique ou à une blatte. Si vous avez plus de 30 ans, vous en avez tous fait l'expérience. Les pare-brises des voitures ne sont plus constellés d'insectes écrasés. Le syndrome du pare-brise démontré par une étude allemande. Leur déclin est massif et plus rapide qu'aucune autre extinction terrestre. Quel est leur rôle dans la chaîne alimentaire et la biodiversité? Et pourquoi leur place au sein des écosystèmes est fondamentale? Insectes, alerte disparition. Bonjour Isabelle Dalloz.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université Paris-Cité et chercheuse à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Philippe Grandcola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint scientifique de l'Institut écologie et environnement. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. En complément d'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur notre fil @sciencesqfd. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc de ces observations de terrain menées dans le monde entier depuis une vingtaine d'années et qui démontre de manière indiscutable une diminution nette du nombre total d'insectes, une situation déjà préoccupante en 1972. Pour notre archive du jour, la question est posée, les insectes, amis ou ennemis de l'homme?
Monsieur le comte, le monde étrange des insectes effraie, épouvante parfois, mais nous savons maintenant que le moindre moucheron est utile. Et c'est ainsi que vous avez écrit dans l'un de vos derniers articles que l'entomologiste, lui, c'est depuis longtemps qu'un moucheron peut contenir tous les problèmes de l'univers. Alors, que voulez-vous dire par là?
La pensée du XXe siècle sera certainement caractérisée par la reconnaissance du fait écologique, c'est-à-dire du fait de l'interdépendance de tous les êtres vivants. Quand on parlera du XXe siècle, c'est à ça qu'on fera allusion plus tard. Alors, c'est dans ce sens que le moucheron joue un rôle absolument essentiel. D'autre part, prenons une autre comparaison, eh bien celle du château de cartes. Chaque carte est très importante dans un château de cartes. On nous annonce bon qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont en train de disparaître. Ma crainte, c'est que parmi ces espèces en train de disparaître, il n'y ait une de ces cartes essentielles. C'est pourquoi les entomologistes qui partagent mes opinions sont très soucieux, seulement de diriger ce monde d'insectes qui, bien entendu, ne doit pas nous envahir et nous commander, mais aussi de le protéger et d'éviter que des espèces ne disparaissent de manière irrémédiable.
Une réaction à cet archive, Philippe Grandcola?
C'est assez, on pourrait dire, assez prémonitoire. Effectivement, on croirait entendre un discours d'aujourd'hui et qui reste le même dans une situation peut-être encore pire que celle de cette époque pas si lointaine. On est précisément dans un référentiel glissant où on oublie en permanence des avis analogues qui étaient déjà proférés il y a seulement quelques années et qui nous alertaient déjà sur le phénomène de déclin de la biodiversité.
Isabelle Dalloz, sur cette archive de 1972.
Bah oui, exactement le même sentiment. Un homme qui était un visionnaire et puis des cris d'alarme qui avaient été poussés relativement avant cette archive, avec notamment Rachel Carson, avec son bouquin Silent Spring.
Printemps silencieux.
Voilà, c'est ça. Donc c'est triste parce qu'on a l'impression que ça fait des dizaines d'années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme pour la biodiversité, pour le changement climatique. Et bon, voilà.
Oui, Rachel Carson qui publie en effet ce livre et qui a été le coup d'envoi, la première sonnette d'alarme sur l'usage des pesticides, le déclin des insectes et donc des oiseaux. C'est ce qui s'est passé. Alors il y a quelque chose que je trouve assez élégant dans cette archive, cette allégorie qu'on vient d'entendre. Si les insectes s'effondrent, c'est la première couche d'un château de cartes qui s'effondrerait.
Alors effectivement, dans les milieux terrestres, les insectes sont légion. Sur plus de 2 millions d'espèces vivantes, il y a 1 million d'espèces d'insectes qui ont des rôles essentiels. Bien sûr, tout le monde connaît la pollinisation. Il faut se rappeler quand même que plus des 3/4 des plantes existantes dépendent directement de pollinisateurs, dont la plupart d'entre eux sont des insectes, mais il y a également plein d'autres rôles, la fertilité des sols, sols, la dégradation de la matière organique, et puis aussi les insectes finalement servent de nourriture pour beaucoup de vertébrés, les oiseaux, les poissons, les batraciens. On le sait très bien, hein, quand les insectes déclinent, d'autres populations déclinent. Les déclins corollaires des déclins d'insectes, principalement, sont les déclins d'oiseaux insectivores, par exemple en Europe continentale.
Alors on va revenir sur ces services écosystémiques. Avant ça, je veux bien qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est qu'un insecte, Isabelle Dajose.
Alors, un insecte, c'est un organisme, donc c'est surtout des animaux, terrestres, dans leur écrasante majorité, qui ont un squelette extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des arthropodes. Et par opposition à d'autres arthropodes, bon, on connaît tous les araignées ou les crabes ou des choses comme ça, les insectes ont 6 pattes qui sont portées sur le thorax et l'écrasante majorité d'entre eux est capable de voler. Donc voilà, petite bête avec 6 pattes et une paire d'ailes, 2 paires d'ailes.
Philippe Grandcola.
Oui, effectivement, alors les insectes existent dans sur notre planète depuis plus de 400 millions d'années, hein. Donc c'est un groupe extraordinairement ancien, dont tous les membres finalement descendent d'un ancêtre commun dans un univers dans lequel les plantes à fleurs ou les mammifères ou les oiseaux n'existaient évidemment pas. Alors au cours des âges, au cours de ces millions d'années, ils se sont diversifiés de manière extraordinaire. Ils ont réussi à franchir un grand nombre de crises d'extinction, y compris celle où, bien sûr, l'espèce humaine n'était pas là, et aujourd'hui, malheureusement, ils sont mis en danger dans une crise d'extinction, une crise de la biodiversité dont l'espèce humaine est la responsable. Et là, ça va très vite, hein, 1000 fois plus vite que les crises antérieures.
Oui, vous dites 400 millions d'années, hein, ce sont les plus anciens animaux à s'être adaptés à la vie terrestre, aussi les premiers à développer la capacité de voler. Mais alors aujourd'hui, les entomologistes, hein, les scientifiques qui étudient les insectes, évoquent souvent l'immense diversité, hein, de ces invertébrés. À combien on estime le nombre total d'espèces ?
Alors, en fait, les insectes, c'est près de 85% de la biodiversité, de la diversité d'espèces terrestres. Et on estime que c'est environ 1 300 000 espèces. Alors, par ordre de comparaison, par exemple, on a 6 000-7 000 espèces de mammifères, on a 10 000 espèces d'oiseaux. Donc, vous voyez, c'est un ordre de grandeur qui n'a rien à voir. Et je parle uniquement des espèces décrites. Donc on estime que c'est 1 300 000 espèces, il y en aurait encore entre 5 et 10 fois plus à décrire, et à décrire vite, vu ce qui se passe actuellement.
Le 3/4 des formes de vie animale est donc une valeur soumise à discussion, car nouvelles espèces découvertes chaque année.
Oui, effectivement, à chaque fois qu'on peut faire une incursion dans une forêt tropicale ou dans un milieu un peu moins connu, on va trouver effectivement des centaines ou des milliers d'espèces nouvelles. C'est même de l'ordre de la gageure, hein, pour les scientifiques qui doivent conduire ces tâches de manière rapide et puis en réponse aussi à des questions particulières. Alors cette tâche d'évaluation de la biodiversité, finalement, elle a été conduite très tôt au moment de l'expansion du mode de vie occidental, et puis il y a eu une petite stagnation, on va dire, à partir du début du XXe siècle, où on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à apprendre de la biologie du vivant grâce à un certain nombre d'organismes de laboratoire. Aujourd'hui, elle reprend, mais elle reprend cette tâche d'exploration de la biodiversité dans un contexte de crise.
Alors, dans ce contexte de crise, on va parler justement des services écosystémiques qu'apportent les insectes. On pense souvent, hein, aux aspects négatifs, ça pique, ça transmet des maladies, c'est sale, ça fait peur, ça dégoûte. Ils sont qualifiés, hein, pour la plupart de nuisibles, c'est un terme décrié par la communauté scientifique. Mais voilà, le rôle des insectes dans la chaîne alimentaire et dans la biodiversité, ça c'est une importance qui reste très méconnue du grand public encore.
Oui, tout à fait. En fait, les insectes, ils vont jouer un grand nombre de rôles extrêmement importants dans le fonctionnement de la vie sur Terre, dans le fonctionnement des écosystèmes. Et au premier chef, ils vont être impliqués dans le recyclage de la matière organique. Alors, j'ai une petite anecdote à raconter là-dessus. Recyclage, notamment des fécès, des mammifères. Et donc, j'ai une petite histoire à vous raconter là-dessus. Donc, vous savez sans doute que l'Australie a été colonisée par les Européens qui ont amené leur bétail au XVIIIe siècle. Et donc, il y avait des insectes qui étaient spécialisés dans le recyclage des crottes des mammifères indigènes à l'Australie, qui étaient des marsupiaux, et qui étaient absolument incapables de gérer la dégradation et l'enfouissement des crottes des animaux domestiques amenés par les colons européens, les vaches.
Et donc, c'est les petits scarabées, les petits bousiers.
Voilà, quoi. C'est les bousiers représentés sur les bas-reliefs des Égyptiens. Et donc, ça a atteint une telle ampleur qu'en 1978, on estimait qu'il y avait 1 million d'hectares de pâturage qui étaient stérilisés sous une croûte de bouse de vache, et il a fallu amener à grands frais des bousiers capables de résister aux conditions environnementales australiennes, donc d'Afrique du Sud. sud d'Afrique du Nord pour réussir enfin à rétablir la situation, à déstériliser ces pâturages. Vous voyez, des choses auxquelles on ne pense pas dans la vie quotidienne qui vont de soi, le recyclage des crottes, le recyclage des fesses, c'est les insectes.
Ces insectes recycleurs, hein, on dit, hein, dont ce petit scarabée, le bousier qui nettoie les campagnes. Les insectes recycleurs, ils sont également nombreux, on peut dire aussi les blattes, les cafards, les mouches. Ça, quel est leur rôle aussi
Alors effectivement, il y a beaucoup de rôles. Hein, les insectes, du fait de leur diversité, tiennent une quantité de rôles écologiques. Bien sûr, il y a la pollinisation dont on parle souvent, puisque elle est directement liée notamment aussi à notre production alimentaire, puisque les trois quarts des plantes à fleurs ont besoin de pollinisateurs pour se reproduire. Puis quand elles n'en ont pas besoin, souvent elles sont malgré tout plus productives quand elles sont pollinisées. Du colza autofertile, quand il est pollinisé, il produit 30% en plus. Donc on a du mal à s'en passer malgré tout. Et puis par ailleurs, bien sûr, il y a aussi le fait de servir de nourriture à un certain nombre de vertébrés, donc moins d'insectes, moins d'oiseaux, moins de poissons. Et puis également, il y a des insectes qui vont être des antagonistes, des ennemis de nos cultures. Donc finalement, tous ces rôles s'entrecroisent et le réseau dans lequel ces rôles sont entrecroisés est incroyablement complexe. Il faut rappeler que rien qu'en France métropolitaine, nous avons 40 000 espèces d'insectes. Donc on imagine les interactions qui peuvent être tripartites ou pluripartites ou quadripartites entre toutes ces espèces. C'est d'une complexité effroyable et absolument indispensable au maintien des écosystèmes.
Alors on évoque justement les insectes pollinisateurs, l'espèce phare, l'espèce emblématique, c'est évidemment l'abeille, mais elle n'est pas seule.
Non, elle est loin d'être seul. En fait, quand on pense abeilles, on pense abeilles domestiques, mais en fait, il y a plusieurs dizaines de milliers d'espèces d'abeilles dans le monde, 20 000 plus précisément. Il y en a 1 000 en France, rien qu'à Paris, intramuros, il y en a 150. Et en fait, toutes jouent un rôle fondamental dans la reproduction des plantes à fleurs, donc dans la production alimentaire et puis dans le maintien de la biodiversité des communautés végétales sauvages et donc de tous les organismes qui dépendent de ces plantes, que ce soit les animaux qui vont manger ces plantes ou les animaux qui vont manger ces graines, des oiseaux granivores, etc. Donc on a une espèce d'effet en cascade, comme l'a souligné Philippe Grandcola, qui est très important. Et puis il n'y a pas que les abeilles comme pollinisateurs aussi.
Oui, voilà, puisque parfois il y a des insectes, on ne se doute pas qu'ils tiennent également ce rôle-là.
Oui, tout à fait. On peut parler des mouches, par exemple, dans certains écosystèmes d'altitude, notamment, qui prennent leur relais par rapport aux abeilles, qui sont moins sensibles, apparemment, à des températures quotidiennes un peu basses, qui ne permettent pas l'activité de tous les insectes de la même manière. Donc il y a effectivement une complexité de ces rôles qu'on a du mal à envisager. On voit surtout, bien sûr, l'abeille domestique, parce qu'une colonie d'abeilles domestiques, ce sont des dizaines de milliers d'individus. Donc, en plus, c'est un animal charismatique, on adore le miel, on comprend très bien son intérêt pour la société humaine, mais l'écosystème des insectes est lui infiniment plus divers et plus riche.
C'est-à-dire que sans ces insectes pollinisateurs, sans eux, 30% de ce qu'ils trouvent dans nos assiettes, qui est lié à la pollinisation, ces 30%-là disparaîtraient.
Exactement. En fait, on aurait toujours des calories, parce que les céréales, par exemple, le riz, le blé, ça n'est pas pollinisé par les animaux, c'est pollinisé par le vent. Mais on pourrait faire une assiette avec uniquement du pain, du riz, des pâtes. Et puis, si vous voulez mettre de la sauce tomate sur vos pâtes, il n'y en a plus, parce que les tomates sont butinées par les insectes. Si vous voulez mettre un peu de légumes dans vos pâtes ou si vous voulez mettre de la confiture sur votre pain, et ben il n'y a plus tout ça s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs.
Le coton aussi,
les fibres. Oui, le coton, les fibres, textiles. Oui, et puis, oui.
Philippe Grandcola, justement, pour prolonger sur cette idée de l'importance des insectes pollinisateurs.
Oui, tout à fait. En fait, très souvent, quand on parle de crise de la biodiversité, en fait, on a l'impression finalement que de recevoir un peu moins d'attention de la part des gouvernants, des décideurs ou même du public, parce que finalement, on ne perçoit pas la puissance de la biodiversité comme on perçoit celle des aléas climatiques. Et finalement, cette puissance de la biodiversité, là, on la perçoit très bien quand on s'intéresse à la production alimentaire. Il y a des études qui ont montré... tout à fait récemment, par exemple, en Amérique du Nord, qu'il y a une très grande quantité de cultures qui plafonnent déjà en productivité faute de pollinisateurs. Donc, on est vraiment dans des situations où, finalement, les insectes ont des rôles majeurs. Une très jolie étude aussi récente en Amérique centrale qui a montré que le déclin des amphibiens, des grenouilles, donc qui sont frappés par un champignon parasitaire, malheureusement, qui est introduit un peu dans pas mal de populations sauvages, ce déclin permet l'augmentation des populations de moustiques. Et parmi ces populations de moustiques, il faut rappeler qu'il y a plus de 3 000 espèces de moustiques dans le monde. Il y en a quelques-unes, malheureusement, qui sont vectrices. Et donc, dans toutes les localités où il y a le moins de grenouilles, il y a plus de moustiques porteurs du plasmodium qui transmet le paludisme. Et donc, il y a une relation inversement proportionnelle entre l'importance des grenouilles et le nombre de personnes impaludées dans ces zones. Donc, vous voyez, même quelquefois, l'insecte et sa régulation aussi conditionne la santé humaine.
Alors vous dites régulation, justement, on parle d'insectes pollinisateurs, des insectes recycleurs. Quel rôle tiennent les insectes régulateurs ?
Alors les insectes régulateurs, en fait, c'est ce qu'on va souvent appeler sous le terme d'auxiliaires des cultures. C'est-à-dire que c'est des insectes qui vont être prédateurs d'autres insectes dont on cherche à se débarrasser. Par exemple, les pucerons, il suffit de lâcher une larve de coccinelle ou une coccinelle dans une colonie de pucerons pour qu'il y en ait 150 qui soit dévoré tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la lutte biologique et c'est une alternative extrêmement intéressante justement à l'utilisation de ces insecticides dont on entend beaucoup parler. Donc régulation de toutes ces espèces envahissantes, nuisibles entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme-là, pour les cultures, les pucerons, etc. etc. C'est très souvent utilisé et à très bon escient d'ailleurs.
Et puisqu'on parle aussi de ces insectes qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire, et pas seulement les oiseaux, de nombreuses espèces sont insectivores.
Oui, tout à fait. Beaucoup de vertébrés sont insectivores. Je parlais des grenouilles tout de suite, mais il y a également les poissons. Quand les insecticides qui sont assez rémanents, c'est-à-dire dont les molécules restent actives dans les sols pendant plusieurs années, comme c'est le cas des fameux néonicotinoïdes, en fait, ces produits sont également des fois lessivés et se retrouvent dans des milieux d'eau douce dans lesquels les insectes sont frappés par ces molécules toujours actives. Et là aussi, les vertébrés qui dépendent de la présence de ces insectes décline également. Donc on est vraiment dans une situation où l'insecte est à la base de beaucoup de chaînes alimentaires.
Oui, amphibiens, lézards, serpents, musaraignes.
Oui, oui, oui.
Bon, on parle de l'utilité, entre guillemets, des insectes. J'aime pas trop ce terme qui trahit quand même un peu un certain anthropocentrisme. Si nous, êtres humains, devions répondre à notre rôle écologique sur la planète, on serait bien embêtés.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
C'est 16h17 sur France Culture. Nous parlons de l'effondrement des insectes en compagnie d'Isabelle Dajos et de Philippe Grandcola. Nous venons de voir combien leur place au sein des écosystèmes est fondamentale. À présent, comment est-ce qu'on fait pour estimer cette extinction, Philippe Grandcola ?
Alors, en fait, on a besoin de regarder l'abondance des différentes espèces dans leur population, dans leur aire de distribution. Le souci, c'est qu'il y en a énormément. On vient de parler de 40 000 espèces d'insectes juste en France métropolitaine. Donc, on imagine la difficulté d'avoir une évaluation de l'état de ces populations, surtout si c'est des durées de temps relativement importantes, bien sûr. Le souci, c'est d'avoir des points de référence qui se situent suffisamment dans le passé pour pouvoir évaluer une tendance sans tomber de caribansilla, si je puis dire, et avoir vraiment une évaluation du vrai déclin et pas d'un déclin relatif par rapport à une situation déjà déclinante antérieurement. Alors, certaines de ces études ont pu être menées grâce à des échantillonnages au long terme des populations d'insectes, comme par exemple en Allemagne récemment ou dans d'autres pays d'Europe. Et puis, il y a également des études qui sont menées grâce à la science participative. Là, on demande à toutes les bonnes volontés de mesurer d'une manière un peu standard l'abondance de ces populations d'insectes. Et puis, on arrive à avoir de cette manière des points de référence dans un grand nombre de localités sur une période de temps limite. Les études qui sont menées actuellement permettent d'avoir une petite idée de ce qui se passe à l'échelle d'une ou deux décennies. Donc c'est malheureusement un peu insuffisant, mais malgré tout, ça donne déjà la trajectoire déclinante de ces populations d'insectes.
Vous parlez de cette étude allemande qui est parue en 2017 dans la revue PLOS ONE, qui conclut en moins de 30 ans, les populations d'insectes ont probablement chuté de près de 80% en Europe. Comment les chercheurs ont procédé pour arriver à un tel résultat ?
Alors, en fait, c'est des données qui ont été acquises de manière un petit peu curieuse, enfin amusante. C'est-à-dire que c'est des entomologistes qui récoltaient tous les ans dans des parcs nationaux, j'insiste bien, dans des parcs nationaux en Allemagne, ils récoltaient les insectes qui émergeaient d'une certaine surface de sol. Et puis ils ont fait ça pendant plusieurs années consécutives, pendant 27 ans consécutifs, et ils se sont aperçus que cette quantité, elle décroissait régulièrement. Et donc ils ont été parmi les premiers à tirer cette sonnette d'alarme, parce parce que cette diminution de la quantité d'insectes qui récoltaient dans leur piège, elle était extrêmement importante, comme vous venez de le souligner. Et donc, ça a ouvert la porte, entre guillemets, à un bon nombre d'études qui, malheureusement, tendent toutes à montrer la même tendance, c'est-à-dire que les populations d'insectes, elles s'écroulent, quel que soit l'endroit sur lequel on est sur Terre, quel que soit le groupe d'insectes auquel on s'intéresse, que ça soit des pollinisateurs, des insectes piqueurs-suceurs, des insectes détritivores, etc. Tout, malheureusement, semble aller dans le même sens.
Vous dites quel que soit où on se trouve sur Terre, c'est-à-dire que là, dans cette étude allemande, il y a de bonnes chances, entre guillemets, pour que l'Allemagne soit représentative d'une situation bien plus large.
Oui, effectivement. En fait, c'est un paysage, on va dire, mixte, hein, typiquement européen, où on trouve des exploitations agricoles, des milieux forestiers, des surfaces en herbe. Donc, en fait, dans ce type de paysage, bien sûr, l'influence de l'homme est particulièrement importante. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire une analogie directe avec une situation, par exemple, qui serait celle de la forêt amazonienne ou du bassin congolais, hein, dans lequel l'influence de la déforestation ou la conversion des milieux est infiniment plus importante que celle des pesticides dans des milieux agricoles mixtes européens. Ce même type de situation dans les pays d'Europe peut se représenter également en Amérique du Nord, hein, où bien sûr les mêmes causes produisent apparemment les mêmes effets.
Oui, c'est-à-dire qu'en France ou au Royaume-Uni, les systèmes agricoles sont assez semblables qu'en Allemagne, par exemple.
Oui, tout à fait. On retrouve les mêmes systèmes de production industrielle avec l'usage de beaucoup de substances pesticides, qu'il s'agisse d'ailleurs d'insecticides dont on attend évidemment bien qu'ils aient une action négative sur les insectes, mais également des substances herbicides qui ont également à plusieurs égards des effets très négatifs sur les populations d'insectes.
Alors ce déclin, c'est quelque chose qu'on observe partout sur Terre, Isabelle Dajouze ?
Alors, tant qu'il y a des données, oui. Il y a un exemple que je trouve particulièrement intéressant, c'est il y a une base de données mondiale qui recense toutes les données de biodiversité, quel que soit les taxons, récoltées tous les ans. Et donc les auteurs d'un travail qui a synthétisé ces données se sont intéressés à l'évolution de la diversité d'espèces d'abeilles. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs milliers, dizaines de milliers sur Terre, qui ont été récoltées entre la fin du 20e siècle et l'époque actuelle. Et on observe effectivement une très très forte diminution de la richesse en espèces d'abeilles dans ces collections entomologiques. Et là, c'est des collections qui ont été réalisées sans a priori dans différentes parties du monde. Donc, très vraisemblablement, oui, la tendance est identique.
Ouais. Donc, un phénomène mondial. La semaine dernière, nous parlions de la crise du Permien-Trias, une des pires extinctions de masse que notre planète ait connue. Et notre invité nous disait que cette sixième extinction de masse, hein, celle d'aujourd'hui, était bien pire car bien plus rapide en termes de vitesse et en termes de perte d'effectifs.
Oui, effectivement, on est vraiment dans une cinétique qui est mille fois plus rapide que les pires crises d'extinction du passé. Et puis, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que nous y sommes. Hein. Nous sommes au milieu, hein, et nos enfants, nos petits-enfants, nous-mêmes déjà, nous subissons les conséquences de cette crise. Donc c'est vrai que de regarder des crises géologiques dans le registre fossile, ça peut être finalement faussement réconfortant, hein, parce qu'on assiste à des phénomènes qui se sont déjà déroulés, pour lesquels il y a eu des périodes de récupération qui ont duré quelques centaines de milliers d'années ou quelques millions d'années. Aujourd'hui, on est dans une situation où les événements se précipitent, et puis où, même si on arrêtait aujourd'hui, si on levait toutes les pressions qui pèsent sur la biodiversité. Bien sûr, il y aurait une recrudescence de la biodiversité, mais dans un certain nombre de cas, ça demanderait quand même quelques décennies, et donc on n'est pas tiré d'affaire pour autant.
Isabelle Dajouze ?
Oui, alors, effectivement, je suis d'accord avec Philippe Grandcola, il y a à la fois des signes relativement alarmants, et puis il y a aussi quelques petites manières d'être optimiste, parce que quand on fiche la paix, entre guillemets, à la nature, s'il n'y a pas d'extinction d'espèces, ça revient relativement rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu les photographies de la propriété du photographe Sebastião Salgado, qui vit au Brésil. Et donc, il avait acheté une ferme. Et quand on voit les photos de sa ferme il y a 30 ans, c'est des montagnes complètement pelées, une déforestation pas possible. Et donc, il a eu tout un tas de pratiques de gestion de son exploitation en faveur de la biodiversité. Et quand on voit des photos, maintenant, c'est luxuriant de verdure, de végétation, de biodiversité. Donc, il faut laisser sa chance à la nature. Tant qu'il n'y a pas d'extinction d'espèces, ça peut revenir relativement rapidement.
Oui.
Par contre, quand ça a disparu, comme l'a dit Philippe Grandcola, effectivement, en moyenne, pour que la biodiversité se reconstitue au niveau d'avant l'extinction, il faut en moyenne 10 millions d'années. Est-ce qu'on peut attendre 10 millions d'années ? Je ne sais pas.
Alors, on parle de ces méthodes d'évaluation. Comment estimer ce déclin des populations d'insectes? L'un des principaux enjeux de cette évaluation, on vient de le dire, c'est de pouvoir le faire sur du temps long. Pour le reportage du jour, nous nous sommes intéressés à une approche originale pour mener à bien ce type de recensement. Et c'est avec vous, Antoine Beauchamp, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je me suis rendu à la rencontre de Colin Fontaine, chercheur CNRS en écologie au Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum d'histoire naturelle et de Ludovic Crochard qui réalise une thèse également au CESCO. Pour évaluer l'évolution des populations d'insectes, Colin Fontaine et ses collègues s'appuient entre autres sur des données photographiques issues d'un programme de sciences participatives, mais aussi sur des sons d'insectes pollinisateurs enregistrés en zone agricole. L'objectif à terme de ces enregistrements sonores est qu'une intelligence artificielle puisse identifier les sons espèce par espèce et ainsi permettre d'évaluer en continu et au long cours la dynamique de l'évolution des populations d'insectes.
Il y a plusieurs types de données qui peuvent être utilisées. Il y a des données qui sont issues de programmes scientifiques où des protocoles sont répétés d'année en année pour mesurer la quantité, par exemple, d'insectes qu'il y a. Mais ces programmes sont en général d'assez courte durée. Pour avoir des données sur du plus long terme, on s'appuie également beaucoup sur la science participative, c'est-à-dire qu'on va impliquer des participants volontaires à suivre des protocoles pour mesurer cette biodiversité dans l'espace et dans le temps. Et donc ça démultiplie beaucoup la puissance d'échantillonnage qu'on peut obtenir et donc la quantité de données pour estimer ce déclin. Cela étant, que ce soit des données issues de scientifiques ou de sciences participatives, ces données sont relativement récentes. On va avoir des données sur quelques dizaines d'années maximum. Or, les perturbations qui sont la cause du déclin des insectes sont probablement plus anciennes, ce qui fait qu'il est assez difficile de mesurer à quel point on a perdu ces espèces. On a du mal à avoir une référence avant les grandes perturbations liées au développement humain, notamment liées au développement de l'agriculture.
Ça ressemble à quoi, par exemple, le réseau de sciences participatives, le type de données que vous allez recueillir, ça présente quelle quantité? Si on rentre un petit peu dans le détail, expliquez-moi ça.
Alors, on a différents programmes de sciences participatives qui s'adressent à des publics différents. Différents dans le sens où ça va être des publics qui ont plus ou moins de connaissances sur les insectes. Donc, on développe des programmes qui sont ouverts à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances a priori sur les insectes pour pouvoir participer. Je pense notamment au SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Là, le protocole est assez simple. C'est une genre de chasse photographique. On choisit une plante en fleur où on veut, quand on veut. Et puis, pendant 20 minutes, on va photographier l'ensemble des insectes qui viennent butiner cette plante. Ces photos sont ensuite identifiées, rassemblées dans une base de données sur un site internet, partagées, commentées. Donc c'est un programme qui existe depuis 2010. On est actuellement à plus de 500 000 photos d'insectes qui ont été récoltées comme ça à travers la France et qui nous permettent de mesurer où sont les insectes, où est-ce qu'il y en a plus, où est-ce qu'il y en a moins et commencer à voir un petit peu leur évolution dans le temps.
Ça passe par l'image. Vous avez une autre approche concernant les insectes pollinisateurs en milieu agricole qui est assez originale, qui passe par le son. Alors, comment ça marche et comment est-ce que vous allez évaluer l'évolution des populations d'insectes pollinisateurs en milieu agricole par le son et quelles informations vous allez en tirer ?
Effectivement, on s'intéresse beaucoup aux insectes pollinisateurs dans le milieu agricole parce qu'ils sont responsables de la pollinisation des cultures et donc d'une grande partie de la production agricole. Et l'idée que nous avons eue est d'utiliser donc les sons de bourdonnement des insectes pollinisateurs dans les champs pour avoir une mesure de l'activité de pollinisation, à quel point il y a beaucoup de pollinisateurs qui viennent dans ces champs et les polliniser. Et donc pour ça, on pose des micros dans des champs, donc on a fait ça dans des champs de tournesol et des champs de colza. Et ensuite, on entraîne un algorithme d'intelligence artificielle pour reconnaître ces sons et pouvoir compter le nombre de bourdonnements qu'on a dans ces champs. Donc l'un des intérêts de cette méthode, c'est qu'elle permet d'avoir un suivi en continu, de tôt le matin jusqu'à tard le soir, tous les jours de la saison. Donc c'est vraiment une quantité d'informations très importante. Et puis un point important aussi, c'est que c'est un mode de suivi qui est non destructif. C'est-à-dire que on n'embête pas les insectes, on ne les tue pas, on fait juste compter leurs bourdonnements.
On a la chance aujourd'hui d'être dans votre laboratoire. On a été rejoint par un de vos collègues, Ludovic Crochard. Ludovic, vous avez devant vous votre ordinateur avec les fameux sons dont on parlait à l'instant avec Colin. Est-ce que vous pourriez nous en décrire un, éventuellement ?
Oui, donc là, je vais passer un son d'une abeille qui est passée dans une parcelle de tournesol.
Voilà. Il faut être attentif.
C'est ça, il faut être attentif. Le son est, ils passent très rapidement, donc ils font un son très court et de faible intensité. Donc alors, ils sont pas faciles à repérer.
Parce que là, on parle quand même de dizaines d'heures d'enregistrement. Ce travail d'identification des espèces par le son, c'est un travail de fourmi. C'est l'équivalent de chercher une aiguille dans une botte de foin.
Oui, c'est un peu ça. Et du coup, l'objectif qu'on a, c'est de faire en sorte que nos logiciels reconnaissent automatiquement les sons afin de ne plus avoir à les chercher dans les enregistrements et donc de ne plus avoir à chercher cette aiguille dans la botte de foin.
Donc on a le bourdonnement de l'abeille domestique que tout le monde connaît en fait. Et puis en fait, ces bourdonnements, ils peuvent être spécifiques des différentes espèces. Donc en perspective un petit peu de ces travaux, pour l'instant on ne fait que compter le nombre de bourdonnements qu'on entend. Mais à terme, on pense pouvoir identifier ces différentes espèces. Alors, pour pouvoir mesurer l'évolution dans le temps, déclin ou non des insectes, en fait, on a vraiment besoin d'avoir un recul temporel important. Parce que ces populations d'insectes peuvent avoir des dynamiques cycliques, c'est-à-dire qu'on va avoir une année, une abondance très importante de certaines espèces, et puis pendant quelques années, on ne va plus les voir, et puis elles vont revenir quelques années après. Donc on ne peut pas, avec juste 3-5 ans, on ne peut pas vraiment savoir s'il y en a plus ou s'il y en a moins.
Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Philippe Grandcola ?
Effectivement, c'est très intéressant dans la mesure où on a absolument besoin de ces échantillonnages pour pouvoir voir l'évolution de ces populations d'insectes. Et comme l'explique très bien Colin Fontaine, en fait, malheureusement, on n'a pas forcément toujours le recul suffisant dans un certain nombre d'endroits pour avoir connaissance des états de référence qui seraient différents de la situation actuelle. Donc moi, je retiens aussi que ce type d'étude est extrêmement important pour le futur, parce que là, on a parlé du déclin. Ce qu'on peut espérer, c'est que ce déclin s'arrête si notre pression sur l'environnement change, pression notamment agricole, et dans ce cas-là, il sera important d'avoir ces suivis pour voir si la situation s'améliore, à quelle vitesse et de quelle manière. Donc c'est vraiment très important de mettre en place ces suivis dès maintenant pour pouvoir juger l'évolution de la situation dans les années à venir.
Isabelle Lajose ?
Oui, et puis en plus, ce que je retiens, moi, dans l'originalité de ces méthodes, c'est que c'est des méthodes non-invasives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tuer les organismes qu'on cherche à étudier pour mieux comprendre leur biologie et leur présence. Donc je crois que c'est vraiment des méthodes d'avenir pour moi.
On tend l'oreille pour voir, pour écouter. Ouais. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce reportage, hein, c'est qu'on entend aussi toute l'importance des sciences participatives dans ce domaine-là.
Oui, tout à fait. Et je pense que une grosse partie du travail pour sensibiliser les gens à la crise de la biodiversité, à la crise des écosystèmes en général, c'est leur prise de conscience. Et avec la science participative, je pense qu'on dispose d'un outil absolument extrêmement puissant.
Alors c'est effectivement vrai dans les pays, on va dire, industrialisés, et notamment en Europe. Il faut se rappeler malgré tout que le monde est vaste et qu'actuellement le tableau n'est absolument pas positif de ce point de vue-là. Outre l'agriculture industrielle dans nos paysages, il y a aussi une conversion des milieux, un changement d'usage des terres qui est colossal. Il faut se rappeler qu'il y a quand même plus de 200 millions d'hectares de forêts tropicales qui ont déjà disparu. Les trois quarts des zones humides ont disparu dans le monde depuis le début de l'époque industrielle. Donc on est vraiment dans des situations très contrastées où dans beaucoup de pays, en fait, les régimes politiques et puis les croissances de population et l'exode rural qui continue à se produire, alors chez nous, c'est déjà arrivé. Tous ces changements en fait entraînent une situation de crise de la biodiversité qui vraiment n'est pas forcément appréhendée encore à sa juste mesure par des études qui seraient focalisées sur les milieux qui sont proches de nous, en France métropolitaine ou en Amérique du Nord.
Thank you.
pollen de Luele l'Amore à 16h37 sur France Culture, car nous parlons d'insectes pollinisateurs et plus exactement de l'inquiétante disparition des insectes avec Isabelle Dajose, professeure à l'Université Paris-Cité, chercheuse à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, et avec Philippe Grandcollat, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint scientifique de l'Institut écologie et environnement. Nous venons de parler de l'ampleur de ce déclin, des méthodes scientifiques pour le quantifier. Les chercheurs doivent aussi faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui le biodiversité scepticisme, la star du climato-scepticisme, c'est le déni de la perte de biodiversité. Philippe Grandcollat, l'un des domaines où ce déni s'exerce avec le plus de succès, c'est celui de l'effondrement des insectes.
Oui, tout à fait. En fait, on est placé devant des personnes qui se refusent à concevoir d'aussi mauvaises nouvelles. Alors, on imagine à la base peut-être des réactions d'anxiété ou d'irritation ou de clivage politique aussi, puisque finalement, évoquer la biodiversité, son déclin, c'est devenu partie prenante d'un certain nombre de programmes politiques, et tant mieux d'ailleurs. Donc, ça devient aussi une situation potentielle de clivage. Et puis aussi, il y a peut-être tout simplement la méconnaissance de la biodiversité qui amène à penser qu'elle est beaucoup moins puissante que le climat. Et quand on est confronté à une tornade, inondation, on voit tout de suite la puissance du climat et on a du mal à percevoir finalement que le déclin de la biodiversité va nous poser de gros problèmes en termes de santé humaine ou de production alimentaire humaine.
Il y a aussi une des controverses avec une vaste méta-analyse qui a relativisé fortement la situation. On peut parler de la revue Science qui a publié en 2021 la plus vaste méta-analyse conduite à ce jour sur le déclin des populations d'insectes. 116 études passées au crible. Conclusion, pas de quoi s'inquiéter. Que s'est-il passé, Philippe Grandcollat ?
Alors effectivement, l'avantage d'une méta-analyse, en théorie, c'est de prendre en compte toutes les études publiées, mais pas d'une manière narrative, mais d'une manière statistique, en mettant côte à côte leurs résultats et en les réanalysant globalement. Alors le souci, c'est en fait quand on constitue ce lot d'études que l'on réanalyse de manière globale, si on constitue un lot biaisé, évidemment le résultat est également biaisé. Alors c'est un peu ce qui s'est passé dans ce cas-là. On a mis côte à côte des études où l'on échantillonnait, où l'on étudiait le déclin des populations d'insectes dans des milieux relativement naturels. Et puis, on a mis côte à côte avec ces études assez significatives, des études, par exemple, de recolonisation d'insectes dans des jachères agricoles, de surface très modeste par ailleurs. Et si on mélange l'ensemble, évidemment, la moyenne que l'on obtient est une moyenne finalement assez rassurante, mais faussement rassurante. Donc, il y a eu d'autres travaux qui ont réanalysé de manière critique ces études statistiques et qui ont montré malheureusement que le résultat ne devait pas être pris comme rassurant, mais au contraire plutôt inquiétant.
Oui, cette vaste méta-analyse, on a bien identifié des biais importants, justement, Isabelle Dajose.
Oui, tout à fait. Mais notamment, comme l'a dit Philippe Grandcollat, suivant l'environnement qu'on regarde, on va trouver des tendances complètement différentes. Je voudrais prendre l'exemple où on compare les milieux agricoles intensifs et les villes. Et notamment en France, vous savez qu'il y a une loi qui est passée, la loi Labbé, qui interdit l'utilisation de pesticides dans les espaces verts publics. Et ce qu'on observe en France et également en Grande-Bretagne, il y a un article en Grande-Bretagne qui montre que paradoxalement, la diversité d'insectes pollinisateurs dans les milieux agricoles en Grande-Bretagne est plus faible qu'en ville. Et donc, on se demande presque si on ne marche pas sur la tête, puisque quelque part, des milieux aussi anthropisés que les villes vont héberger plus d'espèces de pollinisateurs que des milieux agricoles. Et à Paris, c'est également le cas. Ça fait donc maintenant un bon bout de temps que les espaces verts parisiens ne sont plus traités aux pesticides. Et on observe, nos données au laboratoire montrent une augmentation régulière de la diversité des pollinisateurs et des insectes en général. Et les jardiniers le disent. Donc, suivant le jeu de données qu'on prend, on va pouvoir trouver des messages optimistes et heureusement, et en même temps des messages optimistes un petit peu paradoxaux, parce qu'on se dit mais dans quel état du coup sont les milieux agricoles intensifs pour qu'il y ait plus d'insectes qu'en ville, quoi.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un consensus très clair sur ce déclin, il n'y a pas de débat à avoir. En revanche, c'est sur les raisons de cet effondrement, il y a peu d'études scientifiques qui portent encore sur le sujet de façon très globale, donc on n'a pas de certitude, mais de nombreuses hypothèses, on en a évoqué quelques-unes déjà. Quelles sont les principales causes envisagées ?
Alors, les principales causes, en fait, sont envisagées pour l'ensemble de la biodiversité, effectivement, avec beaucoup de certitudes sur un certain nombre d'organismes bien suivis, comme les vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les poissons, etc. Et avec effectivement beaucoup moins de documents ou d'études sur des groupes vaste et en même temps relativement mal étudiée comme les insectes. L'IBES, la plateforme analogue du GIEC qui s'intéresse à la biodiversité, aux services écosystémiques, une plateforme internationale à laquelle presque 150 pays adhèrent et qui réalise des évaluations collectives dans lesquelles toute la littérature est rassemblée par des dizaines d'experts qui sont relus eux-mêmes par des milliers d'experts. Donc l'IBES a listé 5 causes. Le changement d'usage des terres, autrement dit si on déforeste évidemment ce qui est dans la forêt disparaît avec la forêt en question.
La perte d'habitat.
Voilà, la perte d'habitat, autrement dit. L'extraction dans les populations, si on surpêche, ce qui est le cas des populations de poissons, par exemple, on perd également en quantité d'animaux. Donc là, dans le cas des insectes, on n'est pas trop dans cette situation. Voilà, on n'est pas dans la même situation que sur des vertébrés qui sont pêchés ou sur des arbres qui sont coupés. Les pollutions sont un des enjeux majeurs. Et là, par contre, sur les insectes, c'est un enjeu absolument catastrophique puisque la quantité de pesticides et d'herbicides qui sont épandus dans le monde ne cesse de croître. Et il faut souligner que ces insecticides et ces herbicides sont beaucoup plus efficaces que la génération précédente. On parlait de Rachel Carson tout à l'heure, hein, qui a lancé un cri d'alarme à propos de l'effet d'un organochloré tristement célèbre, le DDT. Aujourd'hui, on a affaire à des insecticides qui sont 1000 fois plus toxiques. Alors certes, on n'en met pas autant, mais on n'en met pas 1000 fois moins. Et en plus, ces molécules, exactement comme le DDT autrefois, sont des molécules qui restent dans le milieu naturel et qui continuent à agir de manière négative sur les populations. Donc on peut dire qu'on n'a absolument rien appris de ce qui avait été déjà dit, comme le disait Isabelle Dajos, il y a quelques décennies. Et puis enfin, il y a également d'autres causes. Il y a le changement climatique, évidemment. Hein. Les aléas climatiques affectent également les insectes, pas seulement les humains, les oiseaux ou les arbres. Et les espèces exotiques envahissantes, quand on a des espèces qui sont transportées par nos transports aériens ou nos transports maritimes dont la fréquence a augmenté de 1000% durant les dernières décennies, évidemment, certaines de ces espèces s'introduisent dans les écosystèmes et nuisent à d'autres espèces. Hein. On peut citer le cas, par exemple, du frelon asiatique, hein, voilà, qui, on le sait bien, est un prédateur notamment d'abeilles. Il y a d'autres espèces qui ont été introduites par l'homme de manière volontaire, comme la coccinelle asiatique, ce qui était une belle bêtise, on peut dire, et nuit elle-même aux espèces de coccinelles locales sans rendre nécessairement tous les services que rendent ces coccinelles locales en termes de consommation de pucerons ou d'autres antagonistes de nos plantes cultivées. Donc voilà, 5 causes citées par l'IPBES, dont 4 vraiment concernent de manière majeure les populations d'insectes.
On parle de la pollution chimique avec, entre autres, les néonicotinoïdes qui sont en effet toxiques, même à très faible dose, une grande persistance, mais on n'a pas évoqué également d'autres types de pollution que sont la pollution sonore et lumineuse qui joue aussi un rôle également dans ce déclin.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
. 16h44 sur France Culture, nous parlons de l'effondrement des insectes et de ce bruissement de la planète qui disparaît en compagnie d'Isabelle Dajos et de Philippe Grandcola. On attribue souvent à Albert Einstein cette citation « Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre ». On trouve cette citation absolument partout, même sur le site du ministère de l'Agriculture. Sauf que les archivistes d'Albert Einstein rappellent qu'Einstein ne s'est jamais soucié des abeilles à aucun moment de sa vie. Néanmoins, est-ce que c'est vrai ? Que se passerait-il si les abeilles, les insectes disparaissaient vraiment?
Alors, si les abeilles disparaissaient, donc on aurait déjà beaucoup moins d'espèces de plantes à fleurs qui pourraient se reproduire, et notamment des plantes qu'on cultive pour s'alimenter. Donc, comme je le disais précédemment, on n'aurait plus dans notre assiette que du pain, des céréales, des choses un petit peu tristes à manger comme ça. On n'aurait plus de café, on n'aurait plus de chocolat.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, début d'émission.
Maintenant, je ne pense pas que l'humanité disparaîtrait, mais l'humanité deviendrait sûrement beaucoup plus triste, rien que du point de vue du contenu de son assiette.
Philippe Grandcola.
Oui, effectivement, il faut rappeler quand même qu'il y a maintenant presque 3 milliards d'êtres humains, comme l'a rappelé l'IBES récemment, qui se nourrissent encore directement des espèces sauvages, hein, donc qui ne bénéficient pas des productions alimentaires, notamment industrielles, dont on vient de parler. Donc ces personnes-là ont également besoin d'écosystèmes en bon état, hein, sinon elles vont devoir se tourner vers des systèmes industriels qui sont absolument en hors d'état de produire suffisamment en termes d'alimentation. Il faut le rappeler, aujourd'hui, ils commencent déjà à plafonner pour bon nombre d'entre eux, tout simplement parce que soit les sols sont infertiles, soit la pollinisation, quand elle est nécessaire, fait défaut. Donc ces 3 milliards d'êtres humains qui se nourrissent encore d'espèces sauvages, ce sont des personnes qui dépendent d'écosystèmes qui sont également en déclin. Donc là, voilà, on se trouve dans des situations, finalement, où l'humanité n'est pas triomphante, hein, menée tambour battant par des systèmes industriels dont l'efficacité va sans faillir. Hein. On est exactement dans la situation inverse. Trois quarts, deux tiers de l'humanité avec des systèmes industriels qui ont des externalités négatives terriblement mauvaises, qui mettent en danger la durabilité de leur propre production. Et puis, un petit tiers ou un gros quart de la population humaine qui ne dépend pas de ces systèmes industriels, mais malheureusement qui va déclinant en regard des services fournis par des écosystèmes dans lesquels nous-mêmes nous sommes prédateurs.
Ça veut dire qu'on risque d'aboutir à des écosystèmes vides.
Oui, tout à fait. Hein. Il faut se rappeler, il n'y a pas seulement la production alimentaire, c'est pas seulement la pollinisation qui est évidemment indispensable dans bien des cas, c'est également la fertilité des sols, et la fertilité des sols est biologique et donc en partie notamment liée à la présence d'insectes.
Mais est-ce qu'on sait à quel point l'impact de cette disparition, enfin à quel point est-elle mesurée ou anticipée par la communauté scientifique? Est-ce qu'on sait à quoi ressemblerait un monde sans insectes?
Un monde sans insectes.
Ça, du point de vue des études en fait et des projections.
Un monde sans insectes, je pense que ce serait un monde avec une disparition en cascade d'une part effrayante de la biodiversité. Déjà parce que, comme on l'a souligné, il y a une écrasante majorité des espèces de plantes qui ont besoin des insectes pour se reproduire. Donc du coup, si on fait disparaître les trois quarts, les 9/10 des espèces de plantes sur Terre, tous les animaux qui se nourrissent de ça directement ou indirectement parce qu'ils mangent les animaux qui se nourrissent de plantes disparaissent. Et donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux. Et voilà, je pense que c'est inconcevable. Un monde sans insectes.
Si je peux me permettre, c'est un monde dans lequel, en fait, tous les insectes ne disparaîtraient pas, mais où ceux qui restent ne nous plairont pas forcément beaucoup. Ce qui est encore bien pire, c'est-à-dire s'il reste les espèces qui sont vectrices de maladies, comme certains moustiques, ou qui sont en fait des espèces qui ont des effets antagonistes par rapport à nos cultures et qui ne seront plus maîtrisées grâce à tous ces tissus d'interaction qui existent dans des écosystèmes en équilibre. Là, on est dans une situation qui est nettement moins favorable à l'espèce humaine.
Mais c'est des perspectives qui ne sont pas très réjouissantes. Donc maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit que cet effondrement était indiscutable, qu'on a vu quelles étaient les causes, quelles seraient les solutions en fait pour stopper ce déclin?
Alors, il y a deux solutions qui sont assez évidente, hein, finalement, qui consiste à lever les pressions que nous faisons peser sur les insectes. Encore faut-il les mener à bien, hein, et notamment restaurer une certaine diversité de paysages. On en a parlé tout à l'heure, où Isabelle Dajose a mentionné qu'aujourd'hui, paradoxalement, les villes sont parfois plus riches en insectes que des campagnes dans lesquelles les procédures agricoles sont trop pesantes. Donc, simplement...
Restaurer une diversité de paysages, c'est-à-dire?
C'est-à-dire rajouter des haies, rajouter des espaces dans lesquels les traitements agricoles sont infiniment moins pesants, rajouter des zones humides, rajouter tous ces espaces, ça amène aussi plein d'autres bénéfices, pas seulement pour les insectes, ça amène, par exemple, zones humides, c'est également un espace de stockage de carbone, une régulation hydrique, hein, dans des réseaux hydrographiques, donc voilà, ce type de mesure est important. Et puis d'autre part, bien sûr, il y a diminué énormément la quantité d'intrants dans les cultures. Il y a des zones ateliers, notamment en France du CNRS, qui ont montré qu'on pouvait baisser la quantité d'intrants de 20 à 50%. Ces mesures ont été faites d'après les résultats de 200 exploitations agricoles, sans diminuer la rentabilité de ces exploitations. Et d'emblée, quand on mène ce type de politique, on montre que la biodiversité et les insectes en particulier se portent mieux. Alors il ne faut pas perdre de temps, parce qu'en plus, on l'a dit, les molécules des pesticides durent dans l'environnement, hein, elles durent des années. Donc tout ce que l'on met aujourd'hui va retarder la solution à nos problèmes d'une dizaine d'années. Donc on doit s'y prendre dès maintenant et absolument baisser la quantité de ces épandages qui, en plus, sont faits la plupart du temps sur des cultures qui ne sont pas vivrières. Il faut rappeler en France que nous n'avons une autonomie alimentaire qu'à environ 60%, hein, qui est en baisse constante depuis plusieurs décennies. Donc en plus, ces épandages de pesticides qui mettent en danger la viabilité de nos systèmes agricoles et du reste de la biodiversité n'ont pas d'effet positif immédiat pour la société.
Isabelle Dajose, pour conclure justement sur ces solutions possibles.
Pour moi, le principal levier, c'est le levier pour diminuer drastiquement la quantité de pesticides et notamment d'insecticides qui sont utilisés dans le milieu agricole. Parce que pour moi, c'est ça la principale source du problème. Et comme l'a dit Philippe Grandcola, malheureusement, il y a beaucoup de gouvernements et d'agriculteurs qui sont un peu pieds poings liés avec les firmes qui vont manufacturer et vendre ces produits. Et il y a un article que j'ai trouvé particulièrement intéressant, qui est sorti dans la revue Science récemment, qui montre quand on met au point des pratiques d'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on utilise 95% de ces molécules en moins. On met uniquement ces produits quand on voit une infestation de la culture. Il n'y a pas d'effet sur le rendement du maïs, qui n'est pas pollinisé par les insectes, et pour le rendement d'une culture qui est pollinisée par les insectes, qui sont les pastèques. Donc quand on utilise 95% de produits en moins, on a un rendement qui est même supérieur, puisqu'on ne va pas tuer tous ces insectes auxiliaires et tous ces insectes pollinisateurs qui participent au rendement. Et pour aller dans le même sens, hein, par exemple aux États-Unis, les pommes, le rendement des pommiers, c'est uniquement limité par les insectes.
Eh bien, merci infiniment à vous de nous avoir éclairé sur cette disparition préoccupante. Il est temps de retrouver le pourquoi du comment, une chronique signée Étienne Klein.
Pourquoi E égale MC2 ? Épisode 1, d'où vient que la masse est aussi de l'énergie ? Chacun le sait, il y a d'abord eu Little Boy, largué sur Hiroshima le 6 août 1945. Son explosion à 600 mètres d'altitude, accompagnée d'un éclair foudroyant, suivie d'une boule de feu et d'une onde de choc dévastatrice qui fit vibrer les corps jusqu'à la rupture, brûlant les chairs et tuant sur le coup 75 000 personnes n'ayant rien vu venir, et des milliers d'autres par la suite. Et puis, trois jours plus tard, Fat Man, largué sur Nagasaki, provoquant un désastre similaire. Dans l'imaginaire collectif, E égale MC2 est intriqué à ces deux événements tragiques. Est-ce légitime ? Pas vraiment. Et c'est ce que nous allons voir en une succession de trois chroniques. Cet amalgame commença un an après le premier essai d'une bombe atomique qui avait eu lieu le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. Pour le commémorer, le magazine Time, daté du 1er juillet 1946, afficha sur sa couverture une représentation saisissante d'Einstein, appelée le cosmoclaste, c'est-à-dire le destructeur de l'ordre. Elle montre le visage bienveillant du savant, crinière en bataille, très marqué, le regard portant loin, comme s'il interrogeait la postérité. En arrière-plan, une colonne de flammes et de fumée s'élève vers un nuage en forme de tête de cobra. Inscrite sur le nuage, l'équation E égale MC2 vient symboliser le pacte faustien que la physique la plus théorique aurait là conclu avec le mal le plus concret. Pourtant, E égale MC2 n'a ni plus ni moins de lien avec la bombe atomique qu'avec le craquement d'une allumette ou la chute d'un crayon à papier. Revenons en l'année 1905. Épuisé par la rédaction de son article sur la théorie de la relativité, Einstein dut rester alité une partie du mois de juillet. Il accepta ensuite la proposition de son épouse, Mileva, de partir en vacances. Les Einstein partirent avec leur fils en Serbie, où Albert fit la connaissance de ses beaux-parents. Pendant ce voyage, il continua de développer le fil de sa pensée. Entre deux promenades, il lui apparut que le mariage de l'espace et du temps qu'il avait célébré en juin engendrait un drôle de rejeton. La masse d'un corps apparaît comme une mesure directe de l'énergie qu'il contient. Quelques semaines plus tard, en septembre 1905, il adressa à la revue Annalen der Physik un article intitulé « L'inertie d'un corps dépend-elle de son mouvement ?» En à peine trois pages, il offrait une démonstration générale de l'équation E égale MC2. « Imaginons, dit Einstein, un corps émettant de la lumière, visible ou invisible, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques, par exemple un métal chauffé. Par ce processus, ce corps perd une certaine quantité d'énergie, exactement égale à celle qu'emportent les ondes électromagnétiques dont il est la source. Ces dernières étant dépourvues de masse, la lumière n'a pas de masse, on s'attend à ce que cette perte d'énergie ne s'accompagne pour le métal d'aucune perte de masse. Comment donc un corps pourrait-il perdre de la masse s'il ne rayonne rien qui soit massif ? Ce qu'Einstein démontre par le calcul, à partir des principes de sa théorie de la relativité et de ceux de la mécanique, c'est qu'en réalité, le corps perd de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. Plus précisément, s'il perd une énergie grand E, il se débarrasse concomitamment d'une masse égale à grand E divisé par C au carré. Si la lettre C, qui désigne la vitesse de la lumière, a pris place dans cette formule, c'est parce qu'il a été supposé que le corps perdait son énergie en émettant de la lumière. Mais Einstein attribua une portée universelle à sa formule en affirmant qu'elle doit demeurer vraie même si aucune lumière n'intervient dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie. En conséquence, si un corps perd de l'énergie sous n'importe quelle forme, que celle-ci soit lumineuse ou non, il perd aussi de la masse en vertu d'une formule faisant intervenir dans tous les cas la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est donc plus seulement la vitesse de la lumière. Elle intervient de façon explicite dans tous les processus physiques, y compris dans ceux dans lesquels la lumière elle-même ne joue aucun rôle. Elle change ainsi radicalement de statut. Avec Einstein, elle cesse d'être la vitesse de propagation d'un phénomène physique particulier, la lumière, pour devenir une constante universelle de la physique.
Merci Étienne Klein pour votre chronique et merci à toutes et à tous pour votre écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Ève Étienne, Mariam Ibrahim, Garance Préma Agnolo et Natacha Demoule à la réalisation. Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Noé Chabal. Vous pouvez nous écouter partout en podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.